Hector Malot. L'héritage d'Arthur. Chapitre 1. Le château de Rudemont, naguère si bruyant et si animé, était presque désert. Ses fenêtres étaient closes, ses cheminées ne fumaient plus. Et dans la contrée, c'était un sujet ordinaire de conversation de se demander si maintenant il serait jamais habité par son propriétaire, s'il reverrait le marquis de Rudemont, et si, dans sa forêt, on referait ses grandes chasses, suivies de déjeuners ou de dîners, dont tant de personnes avaient conservé un excellent souvenir. Les bavardages et les conjectures sur ce sujet allaient leur train, prenant des proportions tout à fait fantaisistes quand les interlocuteurs avaient quelque peu d'imagination. Le directeur de la tréfilerie anglaise d'Annebo, M. Robertson, avait raconté qu'il avait vu à Londres, à Langham Hotel, le marquis de Rudemont, en compagnie d'une jeune femme des plus élégantes dans sa toilette, qui n'était autre précisément que cette petite madame Clémence Beaujonnier, dont on s'était tant occupé autrefois, au moment où elle était arrivée au château pour être l'institutrice de la pupille du marquis. Ce récit, rapporté et colporté peu de temps après le départ du marquis, avait expliqué sa disparition et celle de l'institutrice, qui, par leur coïncidence, avait déjà éveillé les soupçons. « Il va bien, le marquis. À son âge, ça s'explique tout naturellement. Quel âge a-t-il donc? Il approche de la cinquantaine, c'est le bon moment pour tomber sous la domination d'une femme. On dit celle-là intelligente et habile. En tout cas, elle est charmante. Trop petite, elle est mignonne et délicate. Le marquis, au contraire, taillé en géant. Ils ne semblaient pas faits l'un pour l'autre. » C'est peut-être ce contraste qui a entraîné le marquis. Il y a bien autre chose. Il paraît qu'elle l'a ensorcelé. Le vieux Carquebu raconte à ce sujet des histoires étonnantes. Il est furieux, le Carquebu. On dit qu'il voulait la petite institutrice pour lui. Le vieux monstre. Il n'y a pas de monstre pour les femmes. Dans l'être le plus disgracié par la nature, elles savent trouver un mérite qu'elles sont seules à apprécier, il est vrai, mais qui leur suffit pour expliquer et justifier à leurs propres yeux leurs caprices. Est-ce que le Carquebu aurait... Ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, il y a des gens qui le prétendent. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ne cessent de déblatérer contre la petite femme et contre le marquis. Ça se comprend, car cette fuite lui coûte cher. D'abord, il perd une maîtresse, s'il est vrai toutefois que ses bruits soient fondés. Puis, ce qui est autrement grave pour lui, il est sérieusement menacé dans ses espérances. Toute sa vie avait été arrangée d'après cette idée, chez lui véritable monomanie, qu'il serait un jour ou l'autre l'héritier du marquis en sa qualité de cousin. Un vieillard de 60 ans, héritier d'un homme qui n'a pas atteint la cinquantaine, cela peut paraître ridicule. Mais pour Carquebut, rien n'était plus naturel et plus légitime. Il était le parent le plus proche du marquis, il devait en hériter. Il s'était établi en maître au château et il s'y conduisait comme si déjà il en était propriétaire. Ce départ dérange singulièrement ses projets. Le marquis ne peut pas épouser cette jeune femme puisqu'elle a un mari. Évidemment, mais le marquis peut très bien se ruiner pour elle. Ainsi, Robertson raconte qu'à Langham Hotel, il menait un train splendide. Appartements, voitures, rien n'était trop beau. Il les a vus, un soir, au théâtre de Covent Garden, et la petite institutrice, qui ici était si modeste, était là-bas couverte de diamants. Assise dans sa loge auprès du marquis, qui attirait les regards par sa prestance, elle faisait sensation. Toutes les lorgnettes étaient braquées sur cette Française que Robertson était seul à connaître. Dans un entr'acte, il a salué le marquis, mais celui-ci ne lui a pas rendu son salut. Évidemment, il se cache. À cause du mari, sans doute. Oh, ce capitaine Beaujonnier n'est pas à redouter comme vengeur de la morale. Quelqu'un qu'il a bien connu quand il était officier de remonte à Saint-Lô me disait qu'avec de l'argent, on aurait de lui tout ce qu'on voudrait. Alors, pourquoi se cache-t-il? Je ne sais pas, à cause des convenances. Peut-être que le marquis n'a pas voulu y mettre le prix. Ce n'est pas probable, il a la main ouverte et l'argent lui a toujours glissé entre les doigts avec une extrême facilité. C'est bien là ce qui inquiète le cousin Artem. Et c'est pour cela probablement que ce vieux carquebut s'empresse dès maintenant de tirer de ce naufrage toutes les épaves qu'il peut. Ainsi, on me disait qu'il avait vendu les chevaux de chasse du marquis. Non seulement les chevaux, mais encore les meilleurs chiens de l'équipage et les juments du haras. Dans les bois aussi, il a avancé plusieurs coupes. Il fait argent de tout. Un jour ou l'autre, il vendra les plombs de la toiture du château. C'est sa manière de se consoler. Ou de se venger. Au reste, il faut dire que, malgré sa fureur, il n'engendre pas la mélancolie. Il passe ses journées à jurer. Mais à l'heure des repas, il demande des consolations à la table. Il a toujours quelqu'un à déjeuner et à dîner. Des maquignons, des marchands de bois, avec lesquels il conclut des marchés le verre en main. Il y a des jours où la table n'est pas desservie du matin au soir, et même du soir au matin. On apporte des cartes ou des dominos, ou des dés sur la nappe, tous les jeux lui sont bons, et l'on joue tant qu'on conserve un peu de force dans la tête et dans les doigts. Quelquefois, on se querelle. Et la semaine dernière, Carquebus s'est montré avec un œil poché qui ne s'était pas noirci tout seul. Mais tout cela se passe à la sourdine et le château n'en paraît pas plus animé. Carquebus a renvoyé tous les domestiques pour ne pas les payer et il n'a gardé qu'une fille de cuisine. Tous les volets sont clos, on n'ouvre plus que la salle à manger, mais il paraît qu'on ne la balaye jamais. C'est un chenil, il y a des bouteilles sur tous les meubles, pleine, vide. La cave du marquis danse. Heureusement, elle est bien garnie. La cave est tout. Ainsi, un marchand de Condé me disait que Carquebut avait vendu pour presque rien des faïences anciennes auxquelles le marquis attachait un grand prix. Mais c'est un vol, cela. Dites-lui ça, et de très bonne foi, il vous répondra qu'il sauve ce qu'il peut. Ces faïences venaient de son grand-père, le vieux Fabu, et tout ce qui a appartenu à ce vieux brigand lui appartient. C'est sa façon de comprendre la loi d'héritage. J'aime mieux celle de Madame Méraud. Oh, le frère et la sœur ne se ressemblent pas, et pendant longtemps, on a eu tort de les confondre. Parce qu'ils poursuivaient l'un et l'autre le même but, qui était l'héritage du marquis, il ne s'ensuivait pas qu'ils étaient dignes l'un de l'autre. La façon dont elle a quitté le château, qu'elle pouvait continuer à habiter tout aussi bien que son frère, a été très convenable. Il ne faut pas trop en louer la bonne dame. C'est son fils qui l'a obligée à ce sacrifice. Pour elle, je crois qu'elle serait volontiers restée au château, tant elle s'était habituée à considérer Rudemont comme lui appartenant. Enfin, elle a eu le bon sens d'écouter son fils et la voilà avec lui. Ils habitent une petite maison à Condé. Ils ont de quoi vivre. Les appointements de substitut, voilà tout. Cela fait un changement pour celui-ci, car lui aussi était l'héritier futur du marquis, et de plus, s'il avait épousé sa pupille, il aurait eu, en attendant l'héritage, une grosse dot. On dit que les jeunes gens s'aimaient. C'est probable, car cette petite Denise, avec laquelle j'ai dîné une fois au château, était charmante. C'est une véritable barbarie de l'avoir mise au couvent. Le marquis, étant son tuteur, en avait le droit et franchement, il ne pouvait pas l'emmener en voyage avec sa maîtresse. Comment l'abbé Guillemite a-t-il admis dans son couvent de Sainte-Rutilie une jeune fille qui avait pour mère une comédienne et dont le père était inconnu? Ah, voilà! Il est probable qu'il y a là-dessous quelque intrigue, soit dans le présent, soit dans l'avenir. Peut-être le marquis a-t-il fait les fonds pour une échéance de l'abbé, toujours aux expédients. Je plains la petite. Au couvent, quand on a un amour dans le cœur, cela n'est pas gai pour elle. La situation de Louis Méraud n'est pas plus agréable, car il paraît qu'il l'aime passionnément. Il ne se voit pas? Voilà une bonne question. Comment voulez-vous qu'un jeune substitut de 26 ans soit admis dans un couvent pour y voir une jeune fille qu'il aime? Parlez de cela à la mère Saint-Alix. Ma nièce, qui est la camarade de cette petite Denise, me dit qu'elle est d'une tristesse vraiment touchante, avec cela pleine de douceur et de résignation. On croit qu'elle se fera religieuse. Pourquoi, religieuse, quand elle aura atteint sa majorité, elle pourra très bien sortir du couvent et épouser Louis Méraud. Soyez sûr que si l'abbé Guillemite entrevoit la possibilité d'en tirer une grosse dot, il saura bien en faire une religieuse. Il a réussi des choses plus difficiles que celle-là. D'ailleurs, si, comme on le suppose, elle est la fille naturelle du marquis, et non pas seulement sa pupille, on a intérêt à la cloîtrer. Une femme derrière les murailles d'un couvent n'est pas bien redoutable. C'est Madame Beaujonnier que vous voulez désigner par « on » Parbleu, croyez-vous que c'est pour les beaux yeux du marquis qu'elle l'a enlevée en Angleterre? Elle doit vouloir en tirer mieux que les diamants dont le marquis la couvre en ce moment. Ce n'est pas une de ces filles qui se contentent de ce qu'elles peuvent arracher à un amant momentanément passionné pour passer ensuite à un autre. C'est une honnête femme. Vous n'êtes pas difficile. J'entends qu'elle a un mari. Il est joli, le mari. Enfin, c'en est un. De plus, elle n'a pas fait métier de galanterie. Eh bien, quand une femme de ce genre se jette sur un homme, elle ne le lâche plus. Dans ces conditions, il ne faut donc pas que la petite Denise épouse le substitut. Cette alliance formerait une double force contre laquelle Madame Beaujonnier aurait à lutter, puisque dans le même intérieur, le marquis trouverait réunie sa fille d'une part et d'autre part son jeune cousin, pour lequel il a toujours montré beaucoup d'affection. S'il survenait des enfants dans ce ménage, ce serait le reste. Le marquis les prendrait en affection, et alors adieu l'influence de la maîtresse. Savez-vous ce que je ferais si j'étais à la place du substitut? J'irais trouver le mari et je lui proposerais une grosse somme pour lui faire reprendre sa femme ou intenter à celle-ci un procès en adultère. 6 mois de prison refroidiraient le marquis. Louis Méraud est trop délicat pour employer des moyens de ce genre. D'ailleurs, le marquis est à l'étranger et il ne serait pas facile de les rejoindre. Resteront-ils toujours à l'étranger ?